France Culture.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Genghis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
Temujin dépassait en taille et en force les autres garçons de son âge, mais il était renfermé et taciturne. Il se battait très rarement. Mais quand il le faisait, c'était avec des mesures. Il écoutait toujours en silence, un éclat sombre dans le regard, les méchancetés que lui débitait son adversaire, et dès qu'il voyait que celui-ci n'avait plus rien à ajouter, il se jetait brusquement sur lui sans mot dire. Il le renversait, se mettait à cheval sur lui et se laissait aller à sa sauvagerie, frappant l'autre avec une pierre, lui enfonçant la tête dans le sable avant de le piétiner. Dans ces violences, il y avait quelque chose de cruel. Et aux yeux de ceux qui venaient s'interposer, Temujin passait pour un enfant peu attachant aux réactions imprévisibles. En ces circonstances, les adultes le percevaient à tort, comme quelqu'un de leur âge, et avec une sévérité excessive, ne blâmait que lui.
Nous venons d'entendre un extrait du Loup bleu, ce remarquable récit biographique de l'écrivain japonais Yasushi Inoue, qui retrace l'épopée de Genghis Khan, lu par Daniel Koenigsberg. C'est donc la figure du conquérant des steppes que nous abordons aujourd'hui. Des conquérants même, au pluriel, puisque nous comptons interroger aussi bien Genghis Khan, le grand conquérant du XIIIe, que son héritier, spirituel sinon matériel, du XIVe, le terrible Tamerlan. S'agit-il de barbares, de monstres génocidaires, de nomades assoiffés de sang qui n'ont voulu répandre que la mort parmi les sédentaires? Ou bien ces terribles conquérants ont-ils aussi été des bâtisseurs de civilisation, au point qu'on ait pu parler d'une Pax Mongolica s'étendant sur l'Asie pour l'un, tandis que pour le second, on peut parler d'une renaissance timoride, un âge d'or de la renaissance timoride, pour les arts et la culture. Pour questionner la portée véritable de ces empires des steppes, j'ai la chance d'accueillir trois grands spécialistes des peuples de l'Asie centrale. Maria Choupet, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Papas, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, pour aborder la terrible et fascinante épopée de Temujin, l'orphelin mongol qui a su fédérer toutes les hordes nomades de la taïga au lac Baïkal et au désert de Gobi, je me tourne vers Simon Berger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur et agrégé d'histoire, spécialiste des sociétés des steppes médiévales. Vous avez soutenu à l'EHESS une thèse intitulée « Une armée en guise de peuple ». La structure militaire et l'organisation politique et sociale des nomades eurasiatiques à travers l'exemple mongol médiéval, et c'est actuellement en cours d'édition en vue d'une publication. Vous êtes aussi chercheur sous contrat au CNRS, détaché au Centre de recherche du monde iranien.
Tout à fait.
Alors, ma première question serait sans doute, qu'est-ce qui a fait la différence? En quoi est-ce que ce Temujin, c'est un obscur chef de bande né aux alentours de 1155 sur la rivière Onom, au nord-est de la Mongolie, était-il un meilleur guerrier ou stratège que les autres khans des clans turcs ou mongols, bien plus puissants sur la steppe?
C'était certainement un fin politique. C'était sans doute quelqu'un qui savait très bien s'entourer. Quelqu'un qui avait un charisme assez magnétique. Mais probablement pas un génie exceptionnel, comme on le présente usuellement. Pas quelqu'un qui finalement à révolutionner et bouleverser la société dans laquelle il évoluait. C'est quelqu'un qui a profité des circonstances dans lesquelles il se trouvait et qui, en fait, justement, en vérité, en fait, de chef de bande, comme vous l'avez présenté, était en fait, le général au service d'un royaume qui existait sur le plateau mongol. Et qui a profité de cet environnement politique, en fait, pour s'élever graduellement.
Alors, peut-être rappelons quand même les circonstances. Il est orphelin très jeune, le petit Temujin. Son père Yesugai meurt quand il a quoi, 8 ans, c'est ça?
Alors, oui, ça dépend des sources. Certaines disent 9 ans, certaines disent 13 ans. Mais justement, à propos des sources, il faudrait peut-être dire en préambule qu'on a un problème précisément de documentation quant à la vie de Temujin et pour retracer les débuts de l'Empire mongol, c'est que, non pas qu'elle manque, ces sources, mais elles nous mentent. ou en tout cas, elles ne disent pas toute la vérité.
Vous pensez à quoi? Vous pensez à la fameuse histoire secrète des Mongols?
Alors justement, l'histoire secrète des Mongols, qui est la seule source écrite en mongol à l'époque qui nous soit parvenue.
C'est écrit en mongol ou c'est écrit en ouïghour d'ailleurs?
Elle est écrite en fait en mongol, originellement dans l'alphabet ouïghour. C'est-à-dire que l'alphabet ouïghour est utilisé à partir de Genghis Khan pour noter la langue mongole. Mais c'est bien écrit en mongol. La version en fait qui nous est parvenue est écrite en caractère chinois. Mais précisément, l'histoire secrète, comme les principales autres sources qui nous servent pour retracer les débuts de Genghis Khan, ont toutes été écrites après 1251, après l'arrivée au pouvoir de Mongke, c'est-à-dire donc plus de 25 ans après la mort de Genghis Khan, et elles suivent toutes une forme de vulgate officielle impériale, établie à partir de ce moment-là, qui en fait réécrivent totalement l'histoire des débuts de l'Empire mongol. On s'est rendu compte très très récemment par un effort de critique de ces sources qu'elles s'appuient sur un substrat antérieur. Écrit en partie en
mongol. Écrit ou oral, c'est ce que j'allais dire.
Il y a une partie orale, mais il y a réellement une partie écrite. Il y a un effort de mise à l'écrit d'une véritable historiographie en mongol très tôt, dès les débuts de l'Empire. Il y a tout un matériau écrit sur lequel s'appuient ces sources qui nous sont parvenues, l'histoire secrète, d'autres sources en persan, en chinois. Et en fait, on se rend compte à travers ce substrat qui nous reste que finalement, en comparant également avec d'autres sources qui sont écrites hors de l'Empire mongol et dont le récit précédemment nous semblait quelque peu fantaisiste, on se rend compte en fait que il y a une toute autre histoire des débuts de Genghis Khan.
Alors justement, on parle de la langue de Temujin. Donc, qu'est-ce que c'est que la langue des Mongols et qu'est-ce que c'est que la culture des Mongols? Quelle est la place des cultures en fait voisines, que soit le perse, le chinois ou le ouïghour, enfin les langues turques?
Oui, alors la langue de Temujin, c'est le mongol. La langue de son peuple, c'est le mongol. Ça, c'est tout à fait clair. Mais dès qu'on s'éloigne un peu des steppes centrales et qu'on s'approche bien des frontières, des zones frontières chinoises, turcophones, slaves, etc. Bien sûr, il y a d'autres peuples et il ne faut pas avoir l'image d'un peuple homogène, d'empires qui sont homogènes sur le plan ethnique. Le terme même n'a pas vraiment de sens. Et on a affaire à une mosaïque de populations turcophones, sinophones, iranophones, etc. Ce processus multilingue, polyglotte, etc. va s'accélérer et s'agrandir avec le temps. Et dans la période, disons, post-Chingisranide, on a vraiment affaire à des empires mondiaux.
Et est-ce que c'est une construction actuelle de parler de Mongol d'un côté et de Turc de l'autre? Ou est-ce qu'il y a vraiment, à l'époque de Genghis, une sensation, alors je ne sais pas si le terme ethnique, mais est-ce qu'il y a une sensation de différence entre un Turc du Baïkal, enfin de l'origine des peuples turcs, et un Mongol de l'époque, Simon Berger?
Oui et non. Il est, à mon avis, très important de noter que Turcs comme Mongols et d'autres, Yénicéens, Tongous, etc., appartiennent tous à la période pré-moderne, à ce qu'on pourrait qualifier de très généralement de culture des steppes. Une culture très très ancienne qui remonte très loin jusque dans l'Antiquité, qui est faite d'un ensemble de références partagées, d'éléments culturels, symboliques, idéologiques et d'institutions politiques. À côté de cela, il y a effectivement des différences, notamment linguistiques. Le mongol et le turc sont des langues différentes. Cela étant, ce sont des langues qui sont totalement interpénétrées l'une dans l'autre, si je puis dire. Il y a un nombre considérable de mots turcs dans la langue mongole et vice-versa, notamment du fait de ce brassage politique au fur et à mesure des siècles et de cet ensemble de référents communs et partagés.
Et donc, pour revenir à notre Temujin, donc, qui est orphelin jeune, 8, 9, 10, 12 ans, comment est-ce qu'il survit à cette phase de misère et comment, enfin, donc, il est quand même décrit comme étant chasseur-cueilleur pour survivre, fait prisonnier plusieurs fois. Et comment est-ce qu'il passe de ça à l'homme qui sera proclamé ou élu Kagan, c'est-à-dire chef des Mongols en 1206, lors du grand Kultai, la grande assemblée des hordes? Alors, comment on va de l'un à l'autre? Comment alors, une telle fluidité sociale, j'allais dire?
Alors précisément, ce récit de la jeunesse misérable de Temujin, c'est justement celui de l'histoire secrète des Mongols, qui en dépit de sa valeur considérable, comporte un certain nombre de récits, qu'on pourrait dire, légendaires.
Magiques?
Peut-être pas magiques, mais qui en fait ont des fins de propagande, qui visaient justement à montrer le jeune Temujin comme quelqu'un qui s'est fait tout seul. Ce qui n'est en fait très certainement pas le cas.
Et pourquoi est-ce que le récit veut faire ça?
C'est une figure justement qui appartient à tout ce répertoire de la steppe, finalement de l'individu quasiment seul survivant de son entité politique qui va à partir de rien en fait recréer quelque chose. Ça c'est vraiment une figure qu'on retrouve très très souvent, mais justement qui est une figure légendaire qui très certainement en fait est reprise à propos de Chinggis Khan justement pour bâtir sa légende.
Est-ce que vous pensez que Genghis lui-même, enfin Temujin encore à l'époque, y croyait? Est-ce que lui-même se croyait sous la, enfin prédestiné ou sous la protection totémique du loup bleu ou de Tengri?
Alors très certainement oui, il se pensait sous la protection de Tengri, le dieu ciel. C'est sans doute quelque chose auquel il croyait, auquel il pensait. Il s'imaginait une destinée. Il ne s'imaginait peut-être pas la destinée, en tout cas d'emblée, qui a été la sienne et surtout telle qu'elle a été ensuite réécrite.
Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi le tengrisme? Comment est-ce qu'on définirait ça? Est-ce que c'est un polythéisme? Est-ce que c'est une forme de chamanisme? Ou est-ce que, dans le fond, c'est un monothéisme qui croit en une entité spirituelle dans le ciel?
Je dirais que c'est plutôt une forme d'énothéisme, c'est-à-dire donc de religion avec effectivement cette divinité principale, le ciel bleu, qui est présentée par les Mongols, alors leurs interlocuteurs chrétiens, musulmans, etc., comme un équivalent de Dieu ou d'Allah, mais qui, de fait, cohabite avec un certain nombre d'autres divinités ou esprits, notamment Eutuken, la déesse Terre.
Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement pour Genghis? Est-ce que c'est de rassembler les différents clans et les différentes hordes qui s'affrontent, qui parfois d'ailleurs régulièrement le battent assez tard dans sa carrière? Ou est-ce que c'est de conquérir l'Asie? Parce que parfois on a l'impression qu'une fois qu'il a assemblé les Mongols et les Turcs, le reste c'est presque une formalité. Le continent c'est presque... Tout s'effondre devant lui, quoi.
Alors encore une fois, question de point de vue, mais c'est vrai, et on le perd souvent, souvent de vue précisément, c'est que l'essentiel de la vie de Chinggis Khan est en fait passé à son élévation au sommet du plateau mongol. Mais justement, je ne parlerai pas en fait d'unification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Chinggis Khan, Temujin, est en fait un général au service d'un souverain, Tohri Longkran, qui est le roi d'un royaume qui à l'époque s'appelait Tatar. Et Tatar est l'identité collective par laquelle se reconnaissent l'ensemble des populations mongolophones.
Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a connus au Moyen-Âge, parce que Marco Polo parle toujours des Tatars.
Voilà, c'est ce qui explique tout à fait la diffusion de ce terme, qui donc n'est pas une erreur. Hein. C'est effectivement comme ça qu'il se désigne, jusqu'à ce que le terme mongol, qui au départ est en fait l'identité d'un groupe parmi d'autres, celui auquel appartient Temujin et d'autres, mais qui est un groupe finalement assez périphérique au sein de ce royaume,
prennent l'ascendant
et imposent ce nom qui au départ est donc celui de l'élite à l'ensemble des sujets, mais ça arrive finalement tardivement dans les années 1240-1250. Donc en fait, Temujin s'élève au sein de ce royaume et en vérité, l'histoire de l'essor de Temujin Chinggis Khan, c'est l'histoire de l'usurpation du trône de ce royaume.
Et une fois qu'il usurpe ce trône, une fois qu'il y parvient, là, pour le coup, plus rien ne lui résiste. C'est-à-dire qu'autant il a vécu plusieurs défaites humiliantes, il s'est même plus ou moins réfugié en Chine à un moment. Une fois qu'il a pris le pouvoir donc sur ce royaume tatar, là, pour le coup, rien ne lui résiste. Et ma question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les empires, notamment, ou les royaumes sédentaires qui entourent ce plateau, qui connaissent ces nomades, qui sont battus avec eux quand même depuis des siècles, voire des millénaires, pourquoi est-ce qu'ils cèdent devant l'armée de Gengis? Quel est l'avantage? Qu'est-ce que Gengis a fait de plus fort, de mieux que les autres?
Alors encore une fois, il y a peut-être aussi un effet de source qui fait qu'on pourrait nuancer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette impression que rien ne résiste à Genghis Khan et à ses armées. Dans les faits, par exemple, la Chine du Nord des Jurchen de la dynastie Tin est sans doute un gros morceau qu'il a du mal à mâcher et qui ne va pas réussir à avaler avant la fin de son règne. C'est son fils, finalement, Ogodei et successeur, qui va achever la conquête des Tin. De même, à l'ouest, il va en fait avoir de la résistance. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, le résultat est là. Les conquêtes de Genghis Khan sont éclatantes. Et,
on parle de quoi? 23 millions de kilomètres carrés à l'apogée de l'Empire mongol, c'est-à-dire au moment de ses petits-fils, c'est ça?
Alors, en fait, il y a...
De la Corée à la mer Caspienne, de la Russie à l'Afghanistan.
Oui, mais alors il y a débat. En fait, un collègue, Stephen Poe, récemment a écrit qu'on devrait compter l'ensemble de l'espace sibérien de la même manière qu'on compte, par exemple, l'Australie ou le Grand Nord canadien dans l'Empire britannique, et que du coup, l'Empire mongol à son apogée, c'est plus de 36 millions de kilomètres carrés, et donc davantage encore que l'Empire britannique, ce qui en ferait donc le premier empire au monde.
Rappelons que la France fait 638 000 kilomètres carrés, donc là on parle de 36 millions de kilomètres carrés, ça vous donne une idée de ce qu'a fait Genghis Khan, enfin ce qu'ont fait Genghis Khan et ses petits-fils, arrière-petits-fils, au XIIIe siècle, quoi. Et quelle était la taille de cette armée, d'ailleurs?
Alors, il y a...
Combien d'hommes?
Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je suis assez pour accepter les chiffres assez importants donnés par les sources, puisque, en fait, comme l'écrit l'historien persan Jouvaini, l'armée mongole, c'est une armée en guise de peuple et un peuple sous la forme d'une armée. C'est-à-dire que on est dans un système dans lequel l'armée enrégimente l'ensemble de la population. C'est l'outil principal d'organisation des populations. Et donc, on a non seulement les individus mâles en âge de combattre, mais également les femmes, les enfants, les vieillards. Et donc, en fait, dans l'armée mongole, il faut compter l'ensemble de la population qui... selon des estimations récentes, en fait, à l'époque de l'essor de Genghis Khan, s'élève sur le plateau mongol à probablement 1,5 million d'individus.
Donc il avait une armée de pas loin d'1,5 million d'individus.
Alors,
pas tous combattants, mais il avait cette armée-là.
Il faut considérer qu'il y a
masse militaire,
potentiellement
disons.
Des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mobilisés. Mais on a effectivement quand même une armée extrêmement importante.
Et cet immense empire, est-ce qu'il va s'avérer durable? Ou bien est-ce que les nomades ne sont dans le fond bons qu'à saccager sans rien laisser derrière eux?
Alors, justement, on a coutume de considérer que, d'une part, effectivement, les nomades ne sont bons qu'à la conquête et qu'il y a ce fameux adage qui est dit par... un conseiller de Ogodei, donc le premier successeur de Genghis Khan,
son fils,
donc un de ses conseillers, Yelü Chutsai, qui lui dit que certes l'Empire se conquiert à dos de cheval, mais il ne peut se gouverner d'eux-mêmes, avec cette idée que, les Mongols, ils ont conquis l'Empire, mais pour le gouverner, pour l'administrer, ils ne sont pas très bons, ils vont devoir faire appel à d'autres. C'est un point de vue, à mon avis, qu'il faut très largement revoir. Justement, j'ai parlé de ce royaume tatar qui existait, de ces institutions politiques qui ressortent de cette culture des steppes. Il y a une véritable culture politique de la steppe. Il y a des institutions, notamment ce système militaire qui est en fait le point extrêmement original et particulier d'une forme spécifique de l'État des steppes. Et il y a, dès le moment de la conquête, l'imposition de ce système et de ces institutions politiques à l'échelle de l'Empire. Il va y avoir des adaptations ensuite, effectivement, et des administrateurs persans, chinois, ouïghours, qui vont participer au gouvernement de l'Empire, mais les Mongols aussi administrent leur propre État.
Alors, justement, pour parler de cet héritage des steppes, nous allons écouter notre deuxième extrait.
Tamerlan est un des plus grands rois et un des tyrans les plus illustres. Certains lui attribuent la science, d'autres, enfin, font de lui un magicien. En fait, il n'est rien de tout cela. C'est simplement un homme très vif et d'une extrême intelligence qui questionne et scrute toute chose, connue ou inconnue, avec opiniâtreté. Âgé de 60 à 70 ans, il a le genou droit ankylosé. Enfant, il avait été atteint par une flèche au cours d'un raid, à ce qu'il m'a dit. Il peut marcher sur une courte distance en traînant la jambe. Lorsqu'il y a un long trajet à faire, les hommes le portent sur leurs bras. C'est un homme favorisé. Le pouvoir appartient à Dieu. Il l'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Nous venons d'entendre un passage du grand historien arabe Ibn Khaldoun, qui rencontra Tamerlan lors du siège de Damas vers l'année 1382, lu par Daniel Königsberg. Et pour aborder donc la question de Tamerlan, l'autre grand conquérant des steppes, je me tourne à présent vers Maria Choupé. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et membre du laboratoire de recherche sur le monde iranien, que vous avez dirigé jusqu'au début de l'année 2025. Vous avez également enseigné l'histoire médiévale du monde iranien à l'INALCO, et vos recherches actuelles portent sur l'histoire de la culture écrite en Asie centrale du 15e au 18e siècle.
Oui, merci. Asie centrale, persanophone, l'Iran, tout l'espace qui utilise le persan comme une des principales langues d'expression dans cette période déjà post-mongole.
Alors justement, pour cette période post-mongole, pourquoi est-ce que ce chef de tribu, donc turc, ou disons turco-mongol, mais quand même les Barlas sont assimilés à des Turcs, qui parle lui-même une langue turque, pourquoi est-ce que cet homme d'Asie centrale, né au sud de Samarcande, se vit comme l'héritier ou le continuateur ou le restaurateur même de l'Empire mongol? Pourquoi est-ce que Genghis Khan est une figure tutélaire pour Tamerlan?
C'est une question intéressante. Nous sommes déjà au XIVe siècle.
Oui.
Il y a une grande différence peut-être du contexte. Nous sommes déjà dans un contexte où les tribus turco-mongoles du Turkestan, de Mongolistan, si vous voulez, l'Asie centrale, sont partiellement islamisées récemment, mais elles sont déjà musulmanes.
Donc Tamerlan, quand il naît vers 1336, il naît dans une famille musulmane.
Tout à fait. Il est d'ailleurs, pendant toute sa vie, un musulman assez fortement déclaré, un sunnite assez acharné, si je peux dire, qui s'entoure de à la fois de savants religieux, mais aussi des mystiques et des personnalités qui représentent une spiritualité soufie, mais dans les cadres islamiques. Et Tamerlan est considéré souvent comme le dernier grand conquérant asiatique qui vient de l'Est vers l'Ouest.
Oui.
Le fait qu'il soit qu'il soit musulman lui-même, qu'il opère déjà dans les cadres de ce monde globalisé islamique, si vous voulez, ça change un petit peu le contexte, je pense.
Et vous parlez du dernier conquérant qui vient de l'Est vers l'Ouest. Est-ce qu'il est encore un nomade dans l'âme? Genghis Khan était un nomade. Est-ce que Tamerlan est véritablement un nomade?
Oui, bon, c'est une, comme disait Simon Berger, c'est une question des points de vue. Il est évident qu'il y a un substrat de cette culture steppique dont Simon Berger venait de nous parler, très 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 fort. Nous parlons déjà des sociétés, nous ne parlons plus ni des sociétés turques ou sociétés mongoles, mais nous parlons des sociétés turco-mongoles. Ça, c'est le terme qui s'est vraiment imposé dans notre littérature scientifique. Parfois, il est difficile de savoir si nous parlons des sociétés, et certainement des sociétés pastorales.
Vous pensez qu'il est né sous la tente ou sous la yourte ou qu'il est né dans une maison, par exemple, Tamerlan? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Personnellement, ouais. je pense qu'il s'agit de certainement des tentes établies, l'histoire de la naissance de Tamerlan, c'est un paradoxe. Nous avons des sources très abondante sur Tamerlan. Tamerlan aimait beaucoup l'historiographie. Quand il était au pouvoir, il était un grand mécène de l'écriture de l'histoire. Mais tous ces récits que nous avons sont postérieurs à lui et sont également manipulés, construits. Et nous ne savons même pas la date exacte de la naissance de Tamerlan.
C'est quoi le
C'est une date conventionnelle.
1336
Ben, c'est une date qui s'est imposée parce que une source tardive du début du siècle, de milieu peut-être même du milieu du 15e siècle, en parle.
Et pour revenir à cette question de la religion, donc Genji c'était sinon animiste, du moins tengriste. Il était très très ouvert aux autres religions. On sait que dans son entourage il y avait des bouddhistes, des chrétiens nestoriens, des musulmans, et qu'il accordait le pouvoir, enfin sa confiance à tous. Timur, pour sa part, est d'un islam, on l'a dit, beaucoup plus affirmé. Il se fait même appeler le glaive de l'islam. Alexandre Papas, qu'est-ce qui s'est passé en un siècle ?
C'est l'islamisation. Alors, elle avait commencé beaucoup plus tôt, dès le 9e, 10e siècle en Asie centrale.
Oui, mais comment est-ce que l'islam, et en l'occurrence l'islam même d'ailleurs sunnite, puisqu'on est dans une ère persane, on pourrait penser que ce serait le chiisme qui prévaut. Qu'est-ce qui fait que c'est l'islam sunnite qui l'emporte finalement dans la steppe ?
Bon, l'islam sunnite est majoritaire dans le monde musulman en général. Donc c'est une force beaucoup plus puissante que l'islam chiite. Et l'islam chiite s'imposera plus tard en fait en Iran. Bon, d'accord. Ça signifie pas qu'il n'y a que des sunnites en Asie centrale. En fait, il y a aussi des populations chiites en Asie centrale. Mais la grande majorité est sunnite. Et l'histoire de l'islamisation et de la conquête arabo-iranienne de l'Asie centrale est une histoire d'islamisation sunnite. Donc le résultat, c'est un sunnisme majoritaire dans l'espace centra-asiatique.
Et du coup, que sont devenus les bouddhistes, les chrétiens nestoriens ?
Alors, des communautés se sont maintenues, en fait, hein, jusqu'au 14e, jusqu'au 15e siècle, même, assez tardivement, finalement. Donc, on résistait, si vous voulez, à l'islamisation, conversion, qui sont parfois des conversions de masse. Mais en général, c'est l'islam qui a fini toujours par l'emporter, par une force de persuasion, et aussi parce que c'est un système légal, social, politique. Non seulement une religion, donc, mais tout un système et une culture qui attire également les candidats à la conversion.
Mais en même temps, pour autant, donc, Tamerlan n'est pas Quraishi, il n'appartient pas à la tribu du prophète, il ne peut pas se faire proclamer calife, de la même manière qu'il n'est pas de la tribu de Genghis Khan, donc il ne peut pas se faire proclamer Khan. Donc, je me tourne vers vous, Maria Choupet, quel espace politique va-t-il pouvoir créer pour se proclamer roi ? Ça veut dire quoi, Amir Timur, le prince Timur ? Et plus précisément, d'ailleurs, que signifie ce terme de Shahib Kiran, le seigneur de la conjonction de Saturne et de Jupiter qu'il s'est façonné ?
Là, vous touchez vraiment à l'essentiel.
J'en suis ravi.
Oui, parce que les problèmes essentiels...
C'est un roi astrologique.
Les problèmes essentiels de tout pouvoir est sa légitimité.
Bien sûr.
Il faut que les pouvoirs soient légitimes pour se maintenir en réalité. Et ça, c'est une préoccupation première, en quelque sorte. Une fois, peut-être les premiers moments de conquête passent, mais même avant, puisque Tamerlan ou Amir Timur, si vous voulez... doit d'abord s'établir au sein de son propre espace politique d'origine, avant de pouvoir partir à la conquête.
De l'Asie.
Voilà. Donc il y a plusieurs étapes à ça.
Il commence comme chef de bande, pillard de caravane, voleur de moutons même.
C'est ce qu'on dit, en particulier dans les sources arabes qui sont très anti-timourides. Ouais. Mais ce que je voulais dire avant, c'est que nous sommes ici toujours dans cette culture des steppes, et il faut pas l'oublier malgré l'islamisation. Pourquoi la figure de Genghis Khan reste la figure tutélaire depuis son époque et l'appartenance de fait à la lignée de Genghis est une des conditions de légitimation du pouvoir dans ces régions. Donc Tamerlan,
lui, c'est pas son cas.
Non, pas du tout son
cas. Donc c'est quoi Shahib Kiran ? Ça veut dire quoi,
oui,
Shahib
Kiran ? Oui, j'y arrive tout de suite. Je voudrais juste dire que Tamerlan va d'un côté toute sa vie chercher à établir un lien de sang avec la famille de Genghis Khan,
c'est-à-dire sa femme principale, Bibi Kanoun.
Oui, mais lui n'arrive
pas. Qui est une Genghis
pour lui-même, ce n'est plus possible, puisque de toute façon, tout le monde sait qui il est. Mais il va y travailler pour que sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants également, puissent
se marier dans la famille Genghis Khan.
Voilà.
Maintenant, et par ailleurs, rappelons-le, il va toujours, il est émir parce qu'il laisse toujours un khan, c'est-à-dire
il a un khan fantoche qui va être toujours jusqu'à.
Il y a un héritier de Genghis Khan qui reste sur une espèce de trône sans pouvoir.
C'est ça.
Et lui, en tant qu'émir, il est prince ou général, mais il se place d'un point de vue symbolique sous l'autorité du khan. C'est ça.
Tout à fait. Il ne peut, n'étant pas Genghis Khanide, il ne peut pas prendre le titre suprême.
Et donc, quel est ce fameux titre de Shahib Kiran?
Alors,
c'est quand même génial.
Saheb Kiran, en persan.
C'est mieux prononcé que moi.
En titre arabe, c'est oui, le maître de la conjonction. Maître de la conjonction.
Ça veut dire quoi?
Auspicieuse, bien sûr. Eh bien, dans une des sources, nous avons une explication très précise. Il y a un passage sur la naissance de Tamerlan qui est placé justement au moment d'une conjonction astronomique particulièrement auspicieuse, le 25 Sha'aban 736, c'est-à-dire le 8 avril 1336, lorsque les trois astres sont en position particulièrement auspicieuse, le Soleil, le Vénus et le Jupiter, chacun va symboliser quelque chose.
Le Soleil, Vénus et Jupiter.
Donc le maître de la triple conjonction auspicieuse.
D'accord.
C'est qui le place sous un horoscope particulièrement bénéfique et auspicieux, prévoyant ses futures conquêtes, sa grandeur de son royaume, l'empire qu'il va créer, etc.
Donc sa légitimité n'est ni, j'allais dire, génétique en tant qu'héritier, ni spirituelle en tant qu'héritier du calife, du califat.
Il va chercher toute sa vie à établir d'autres types de légitimation, notamment la légitimation en tant que souverain musulman idéal. Il va prendre vers la fin de, enfin, deuxième partie de sa vie, il va prendre des titres de conquérant de l'islam, Razi.
Oui.
C'est lui qui va partir vers l'Inde pour conquérir presque le dernier pays des infidèles, entre guillemets, qui existe encore et qui est un pays un petit peu mythique et de grandes richesses.
Les conquêtes de Tamerlan sont sidérantes, hein, des marches de la Chine à l'Inde, en passant par l'Iran, l'Irak, jusqu'à la région de la Moscovie presque. Certains historiens estiment qu'il aurait tué 17 millions de personnes, soit près de 5% de la population de son époque. Est-ce que c'est un chiffre auquel vous adhérez, Maria Chopé?
Moi, je suis assez, je suis assez prudente. Je pense que tout dépend des sources que nous regardons. Et effectivement aussi, vous lisez les sources qui émanent ensuite de sociétés qui ont subi les conquêtes des Tamerlans, notamment par exemple l'Inde, j'en ai parlé tout à l'heure. On parle en 1398 de grands massacres de la ville de Delhi.
100 000 prisonniers exécutés.
Enfin, c'est ce qu'ils disent les sources en persan, les sources indiennes en persan. C'est certainement quelque chose qui a marqué la mémoire collective, c'est sûr.
Oui, c'est comme l'histoire des 28 tours de têtes décapitées, 1500 têtes décapitées en colline à Ispahan, je crois que c'est quoi, 1389. Enfin, pourquoi une telle violence? Pourquoi même un tel systématisme dans la violence, selon vous?
Alors, Tamerlan, je pense que tout comme Genghis Khan avant lui, a une façon de procéder. C'est-à-dire les conquêtes se passent selon quelques schémas qui sont assez bien établis. Nous savons que Tamerlan prépare ses conquêtes. Ce n'est pas des choses spontanées, c'est-à-dire ce n'est pas parce que aujourd'hui l'empereur décide de partir. Non, on prépare nos conquêtes parfois plusieurs années à l'avance. En ce qui concerne par exemple les conquêtes de la Turquie ottomane, on n'en a pas encore parlé, qui posent des problèmes supplémentaires parce que la Turquie ottomane est un pays musulman sunnite.
Comment expliquer... Il y a une proximité, c'est des Turcs.
Oui, mais ça ne joue peut-être pas directement. Mais comment expliquer qu'un pays musulman, un souverain musulman, va envahir un autre grand pays musulman voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous savons par les sources à la fois persane et aussi latine, c'est que les envoyés des Tamerlans sont présents dans l'Empire ottoman plusieurs années bien avant le début des conquêtes. Ils sont notamment présents sur les bords de la mer Noire, dans les petites principautés grecques qui persistent encore là-bas à ce moment-là. Ils ont des contacts avec les commerçants latins, italiens et vénitiens qui sont présents dans ces régions. Et ils vont être créer en fait des liens avec des souverains locaux, des petits rois.
Mais je vous repose quand même la question, pourquoi une telle violence? Pourquoi une violence si délibérée? Je ne parle pas de la violence de la conquête, du combat lui-même, mais les exécutions par exemple, à froid. Les centaines de milliers de prisonniers exécutés à Delhi dont vous parliez.
Alors, si,
il faut... Les 100 000 prisonniers.
Les 100 000. Ouais. Je pense que ça dépend aussi
c'est de... C'est pour frapper des proies, pour que les autres peuples cèdent ou est-ce que c'est cette phrase de René Grousset, pour le citer, qui parle de Tamerlan comme la synthèse qui manquait sans doute à l'histoire de la barbarie mongole et du fanatisme musulman. Cette étape supérieure du besoin ancestral de meurtre qu'est le meurtre perpétré au service d'une idéologie.
La seule chose à laquelle on peut adhérer, c'est que c'est une synthèse de la culture de steppe mongole, si vous voulez, et la culture arabo-musulmane ou irano-musulmane d'une autre façon. Mais bon, en ce qui concerne Tamerlan...
Vous voulez détruire?
Non. Je pense que en ce qui concerne Tamerlan, le massacre ou la violence extrême arrive dans un deuxième temps au moment où les provinces ou les régions auparavant conquises qui ont signé des traités, etc., éventuellement se révoltent.
Ah, d'accord. Donc,
et là, c'est des expéditions punitives qui sont effectivement très ponctuelles et très violentes parfois. Pour le Delhi, pour l'Inde, la situation est un peu différente parce qu'il s'agit d'une invasion massive et qui est en fait courte, c'est juste plusieurs mois. Qui a aussi un but très avéré de pillage, parce que l'Inde, on a des
très riches à l'époque.
Très riches. On a des témoignages, notamment de pillage des temples hindous, qui sont réputés de conserver des grands trésors pierres précieuses, or, etc. L'Inde est toujours cette terre de richesses un peu mystérieuses, un peu sauvages, où on va.
Et peut-être dernière question, comment est-ce que Tamerlan choisit les endroits qu'il conquiert? Ou est-ce qu'il veut, dans le fond, il aimerait conquérir la terre entière s'il le pouvait?
Effectivement, Tamerlan va partir dans plusieurs directions aussi. Il a deux grandes ennemis, si vous voulez, puissances ennemies. L'un, c'est Tortamish Khan. Qui pourrait devenir peut-être l'équivalent de Tamerlan si les circonstances étaient différentes. Donc Tamerlan va affronter la Horde d'Or pendant des longues années. Les batailles contre Tortamish Khan, son rival, une autre puissance des steppes, équivalente peut-être à sa propre puissance, en tout cas au début de sa carrière. Il va également essayer d'affronter l'empire mamelouk.
Donc il va dans toutes les directions.
Il ne va jamais réussir à conquérir l'Égypte. Il va dans toutes les directions.
S'arrêter en Palestine.
Mais progressivement, ce n'est pas des conquêtes qui partent dans tous les sens en même moment. Nous avons une progression. D'abord, c'est rendre maître de la steppe de Turkestan, l'Asie centrale, Samarcande, sa deuxième capitale. Le Khorasan, c'est-à-dire les proches extérieurs, le Khorezm et le Khorasan, la Khorezmie, la mer d'Aral, les parties de l'Iran oriental. Ensuite, on part sur les plateaux iraniens et vers l'Azerbaïdjan.
Ce qui nous amène à écouter notre troisième archive, un extrait de la pièce Tamerlan, réalisée par la Société des comédiens français en 1957.
Me voici maître de la Grèce qui m'ouvre la porte de l'Europe. Les clés en seront gardées par mer et par terre, car j'y laisserai les escadres de Tekel et 100 000 Tartares. Je veux traverser l'Asie, laissant partout des garnisons. Traîné par ces bêtes de somme que j'ai découronnées, je veux enlever Bagdad, camper à Babylone et parcourir les rues de Samarcande vêtu d'une armure d'or, semblable au soleil. À mon cimier, une triple plume flottera pailletée de diamants, dansant dans l'air pour indiquer que je suis l'empereur d'un triple monde. Quand les peuples me verront suivi d'un troupeau de rois vaincus, ils comprendront que d'un bout de l'Europe à l'autre, mes soldats, le sabre à la main, attendent l'heure de l'assaut final. Mais auparavant, je veux atteindre l'autre rive de l'océan pour tenir entre mes mains, avec trois continents, les deux bouts du monde.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Pour évoquer la postérité, l'impact négatif mais aussi paradoxalement positif de ces empires des steppes, je me tourne à présent vers mon troisième invité. Alexandre Papas, vous êtes historien du monde turc et de la mystique musulmane, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École pratique de hautes études. Vous dirigez en outre le Centre d'études ottomanes au Collège de France. En 2002, vous avez publié avec Marc Toutan aux belles lettres l'Asie centrale de Tamerlan.
C'est bien ça.
Alors, peut-être pour revenir à Tamerlan et surtout au massacre de Tamerlan, il y a quand même un point important, très important, ce sont des massacres sélectifs. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de la population que Tamerlan épargne dans toutes les villes, je pense aux artistes et aux artisans. Quelle est la logique de Tamerlan ?
Oui, c'est tout le paradoxe de la carrière militaire de Tamerlan et de la figure qui a été créée par la suite. Tamerlan est un destructeur et en même temps un bâtisseur. Donc la raison pour laquelle il enlève ses artistes, ses architectes, ses ingénieurs, etc., c'est pour bâtir. Pour bâtir, et pour bâtir en particulier sa capitale, qui est Samarcande, qui était dans un état de délabrement avancé à l'époque où Tamerlan fait sa capitale. Il reconstruit la capitale à son image d'ailleurs, donc de façon très centralisée, monumentale, qui est tout à fait à l'image de l'empire de Tamerlan et de sa personnalité.
Mais aussi, enfin, disons-le, c'est éblouissant de beauté, quoi. Enfin, Samarcande, moi, c'est un des plus beaux endroits que j'ai jamais visité.
Oui, alors quand on se rend effectivement aujourd'hui à Samarcande et dans d'autres villes de l'Ouzbékistan actuel, effectivement, alors tout n'est pas timoride, hein, il y a des choses qui sont postérieures dans les édifices que l'on voit aujourd'hui, mais à Samarcande en particulier, il y en a peut-être trois qui sont emblématiques, qui sont parmi les joyaux de l'architecture musulmane.
Et par exemple, on parlait de la mosquée Bibi Kanoun, la femme donc de Tamerlan, qui est une descendante de Genghis Khan. Voilà. Donc pour lui rendre hommage et aussi donc finalement pour rendre hommage à son, j'imagine, son alliance matrimoniale lui-même, son statut, il construit cette mosquée qui est époustouflante, qui est d'une certaine manière l'ancêtre même du Taj Mahal, si on veut.
Oui, c'est le bulbe. Hein. C'est le bulbe en particulier qui est extraordinaire de ce mausolée de Bibi Khanoum, qui a servi de modèle au XVIIe siècle pour celui du Taj Mahal sous Shah Jahan.
Qui est donc un descendant d'ailleurs, rappelons-le pour nos auditeurs, c'est-à-dire que les Moghols sont des descendants de
alors
Tamerlan.
Ça c'est un héritage timouride que l'on ignore souvent. Les Moghols ne s'appellent pas Moghols eux-mêmes, hein, ils s'appellent Timurian, donc dans les sources indo-persanes, c'est-à-dire l'exacte traduction en persan de Timouride. Donc ils se considèrent comme Timouride, puisque c'est une fondation timouride, puisque c'est Babur qui fonde les Moghols.
Et ce style timouride dont on parle, qui rend Bibi Kanoun et même l'ensemble de Samarcande si beau, finalement, est-ce que son originalité, c'est pas justement cette fusion, c'est-à-dire ce brassage des peuples et des techniques artistiques qui a permis, y compris dans la violence, Tamerlan, c'est-à-dire le fait de se faire rencontrer des Persans, des Indiens, des Turcs, des Arabes.
Oui, tout à fait. On retrouve tous ces savoir-faire, en particulier Persans, Turcs et Indiens, dans cette architecture, également dans la littérature, dans d'autres produits culturels de la période de Tamerlan et Timouride par la suite.
Est-ce qu'on peut parler, c'est un anachronisme, est-ce qu'on peut parler de la première grande culture de fusion de l'histoire ? On parle de cuisine de fusion aujourd'hui.
Oui, mais au fond, peut-être que toutes les cultures sont des cultures de fusion, finalement. Il faut vraiment sortir de cadres nationaux, même pour l'histoire contemporaine, hein, qui ne rendent pas justice, finalement, à l'histoire des sociétés.
Et en parlant de postérité, je me tourne vers vous, Simon Berger, sur un autre aspect. J'ai lu qu'une étude génétique avait identifié une lignée de chromosomes Y particulière à 8% des hommes d'Asie centrale et qui serait le marqueur d'une filiation masculine depuis Genghis Khan. Est-ce que c'est avéré que l'empereur mongol a essaimé comme ça et qu'il représenterait, enfin, il serait l'ancêtre d'une part importante des gens d'Asie ?
Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de génétique, mais c'est avéré que Genghis Khan avait lui-même déjà plusieurs épouses légitimes et plusieurs concubines. C'est la polygamie est pratiquée de manière assez classique dans l'aristocratie mongole et qu'il a eu assez tôt, hein, dès la génération de ses petits-enfants, il y a en fait des centaines de petits-enfants.
Parce que là, on parle de centaines de millions quand même, là.
C'est
comment? Qu'est-ce que vous dites?
12 millions. 12 millions, l'étude.
12 millions de personnes?
12 millions, oui. 12 millions.
De descendants?
Mal.
Et donc aujourd'hui encore, le personnage de Genji est considéré comme un ancêtre tutélaire ou pas en Asie centrale?
Il est sans doute considéré comme une forme d'ancêtre tutélaire, d'une part évidemment en Mongolie, mais aussi dans d'autres pays d'Asie centrale, au Kazakhstan par exemple, etc. Mais la filiation est sans doute moins génétique au sens strict que symbolique. Il y a cette idée justement de Genghis Khan comme fondateur d'empire, parti de rien, et donc en fait ancêtre des nations mongoles, kazakhs ou autres.
Et il y a une autre postérité qui peut-être est encore plus intéressante, je trouve, pour avoir parcouru personnellement la route de la soie d'ailleurs, c'est cette notion de Pax Mongolica. Est-ce qu'on peut considérer que les facteurs géopolitiques et militaires des empires, notamment de l'empire de Genghis, sont vraiment ce qui a permis la route de la soie, ce qui a permis l'échange des idées, l'échange des cultures, l'échange des religions? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Papas?
Oui, bien sûr, ça a créé des conditions de communication plus apaisées. Les routes étaient toujours dangereuses. Et c'était aussi un aspect de la politique de Tamerlan. On oublie parfois que, bien sûr, il y a un esprit de conquête, de raptation, etc., de biens. Mais un des buts aussi des conquêtes de Tamerlan, mais comme de Genghis Khan, et au fond de l'ensemble de ces empires des steppes, c'était de faciliter les communications, de permettre des échanges commerciaux, culturels, avec parfois des signatures de contrats à la clé, déjà, à l'époque. Et donc, cette paix avait un but qui était tout à fait politique et en même temps économique.
Et pour parler d'une autre filiation, enfin, d'un autre impact qui est assez frappant, je trouve, notamment chez Tamerlan, est-ce qu'on ne peut pas penser que, paradoxalement, cet homme qui a peut-être été un peu une catastrophe pour l'Asie a été un bienfait pour l'Europe? Je pense notamment au fait qu'il ait détruit vers le nord la Horde d'Or, ce qui, du coup, indirectement, a protégé la Russe de Kiev et la Moscovie naissante, enfin, et a permis la naissance de la Russie moderne. Je pense aussi à sa victoire à Ankara en 1402 contre les Ottomans de Bayezid Ier, qui, de facto, a prémuni l'Europe, en tout cas à ce moment-là, d'une déferlante turque, alors que ses armées étaient peut-être pas prêtes à affronter les Ottomans. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je serais plus sceptique à ce sujet. Alors, pour le cas ottoman, bon, c'est vrai que la victoire d'Ankara de 1402 est un coup de tonnerre pour la dynastie ottomane naissante. Mais il faut pas oublier que les conquêtes ottomanes ont commencé avant.
Oui, bien sûr.
Dès le 14e siècle, les Balkans deviennent très vite ottomans. Donc,
mais est-ce que le fait d'être attaqué dans leur arrière par Tamerlan n'a pas un peu fauché leur élan?
Oui, non, effectivement, la propension à aller vers l'est a été stoppée net par les armées de Tamerlan. Donc ça, c'était un signal envoyé aux Ottomans d'empire à empire. Hein. Mais évidemment, le degré de puissance de l'empire de Tamerlan est bien supérieur à l'époque, hein, aux Ottomans.
Et est-ce que les Européens se rendent compte de l'importance de cet empire qui se crée? Je pense par exemple à l'ambassadeur qu'envoie la Castille, à Samarcande. Est-ce qu'ils comprennent l'importance géopolitique de Tamerlan?
Oui, très vite, en fait, on envoie des ambassadeurs, il y a des échanges d'ambassades qui ont lieu parce qu'on sait qu'il faut négocier avec Tamerlan. Et encore une fois, il y a des contrats à la clé. Ouais. Donc on veut non seulement se prémunir des velléités de conquête de Tamerlan, mais également faire affaire avec lui.
Et on parlait de cette renaissance timouride.
Oui.
Est-ce que c'est uniquement les arts plastiques ou est-ce que finalement ça s'étend à d'autres domaines d'un rayonnement, j'allais dire même intellectuel? Je sais pas, je pense par exemple au petit-fils de Tamerlan, au Luc Beg dans le domaine de l'astronomie. Enfin, oui. Quelles sont les avancées intellectuelles de l'univers timouride? Pourquoi est-ce qu'on parle de renaissance, d'ailleurs?
Oui, elles sont considérables. Et elles apparaissent à tous les niveaux du savoir. Alors, vous parliez de Ulugh Beg, la science astronomique, qui est en même temps astrologique, donc ça nous renvoie à Sahib Kiran de tout à l'heure, fait partie des domaines de prédilection des savants et des scientifiques timourides, mais il y a d'autres domaines scientifiques qui sont couverts par les timourides. La science agricole, par exemple, l'architecture en tant que science. Donc, il y a toute une politique scientifique de Tamerlan Ferland et de ses descendants de la cour timouride, qui est en fait une grande puissance scientifique au XVe siècle. La littérature également connaît un mouvement de renaissance, véritablement, avec des auteurs qui écrivent en persan et en turc. Donc nous évoquions les langues tout à l'heure. Il y a une langue qui est le turc oriental, le turc tchagataï, qui obtient ses plus belles lettres et ses plus belles œuvres à cette époque-là, sous le patronage timouride. Donc on a une culture de cour qui est scientifique, culturelle, littéraire, qui développe une littérature qui reste encore aujourd'hui parmi les grandes littératures mondiales.
Et en termes d'astronomie, Uluk Beg, c'est peut-être le seul monarque qui soit un véritable chercheur, quoi. Enfin, reconnu comme un scientifique par...
Oui, c'est plus un scientifique qu'un souverain, finalement. C'est davantage de ça, sa passion. Mais c'est tout à fait dans l'esprit, en fait, de la cour timouride. Hein. Puisqu'on a non seulement des souverains, hein, des princes, etc., des femmes aussi, mais également des milieux scientifiques, littéraires qui gravitent autour de la cour. C'est pour ça qu'on peut parler véritablement de renaissance. Hein.
Et donc, finalement, l'image qu'on a de ces barbares destructeurs, c'est un peu faussé, quoi, finalement. C'est un peu la moitié, c'est un peu la moitié du...
Et complètement fausse. Ce sont des empires, donc, qui conquèrent, qui bataillent, mais quel empire ne le fait pas? Donc, non, c'est une image qui est totalement faussée. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas une culture militaire et des institutions militaires qui sont très importantes, jusque tardivement chez les Timourides. Mais, par ailleurs, on a affaire à des civilisations.
Et selon vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un troisième grand conquérant capable, après Tamerlan, après Timur, à nouveau d'englober toute l'Asie, de bâtir? Qu'est-ce qui a changé dans les rapports de force pour que les nomades cessent d'être la puissance dominante du continent?
Je crois que
c'est l'arme à feu. Est-ce que c'est...
Oui, c'est vrai que les techniques militaires ont changé au détriment, sans doute, des techniques des steppes, qui sont restées très conservatrices. Mais une autre raison, c'est aussi la montée des autres empires. Hein, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on voit un basculement du côté russe d'une part et chinois ou sino-manchou de l'autre. Et au milieu du XVIIIe siècle, on bascule dans une autre époque et c'est la fin, au fond, des Gengis-Khanides et également des Timourides. Et ce sera un destin également auquel seront confrontés les Mongols plus tard avec avec les Indes britanniques.
Oui, donc l'Empire moghol est annexé par la Grande-Bretagne début du 19e. Mm-hmm. Quels sont les derniers héritiers finalement de l'Empire des steppes? Moi j'ai regardé, j'ai vu qu'il restait un autour de Kiva, un dernier Khan jusqu'en 1920 qui aurait été annexé par l'armée rouge, c'est ça? Sur la mer Caspienne.
Kiva a été conquise vers 1873 peut-être, mais pas entièrement intégrée dans l'Empire russe. Et le Khan de Kiva est resté effectivement sur les trônes de façon un peu conventionnelle, symbolique. Et c'est des dynasties d'origine nomade, mais qui sont totalement sédentarisées. Elles sont urbanisées déjà. Donc il y a aussi un problème que nous n'avons pas peut-être mentionné, l'acculturation et les processus d'urbanisation et des persianisation éventuellement, dans un premier temps, de ces élites turco-mongoles militaires qui sont arrivées avec
parce que quoi années. En fait, ils s'affaiblissent, c'est ça, ils s'enrichissent en se sédentarisant, mais du coup, ils s'affaiblissent militairement. C'est ça, est-ce qu'on peut parler d'un processus d'acculturation finalement qui les affaiblit?
C'est une thèse qui est souvent défendue par les historiens, mais qui est discutée, puisque... On en a parlé au début, les Mongols ne sont pas que des combattants, sont déjà pour une partie d'ailleurs d'entre eux sédentaires, hein, ils sont pas tous nomades. C'est pareil pour les Turcs d'Asie centrale, médiévaux, ils ne sont pas tous nomades, il y a déjà des villes, en fait, très, très tôt, même dans la steppe. Donc cette thèse ne tient pas, en tout cas, est discutée entre historiens. Non, ce qui apparaît souvent comme un facteur d'affaiblissement de ces empires, ce sont les divisions internes. Hein. Ouais. Puisqu'on a un système de souveraineté qui est collectif, de distribution du pouvoir par apanage, qui fait que...
Il y a un morcellement nécessaire.
Il y a un morcellement nécessaire, sans compter les empires aux frontières qui montent. Donc, il est difficile de maintenir sur la longue durée ces empires de façon cohérente.
Et est-ce qu'il y a une forme de malédiction de Tamerlan qui reste? Je me tourne vers Maria Choupé. Je pense notamment à cette histoire qu'on raconte quand on va au sanctuaire à la tombe de Tamerlan, qui est splendide, hein, à Samarcande, bien sûr. Et là, on vous parle de la malédiction de Tamerlan avec l'archéologue Gerasimov, l'archéologue soviétique qui a eu donc la mauvaise idée de d'ouvrir le tombeau alors qu'on avait dit qu'il fallait surtout pas l'ouvrir. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est une histoire qu'on cite assez souvent. Tamerlan est enterré à Samarcande, dans un lieu qui s'appelle Gouremir, c'est-à-dire les tombeaux de l'émir, magnifique mausolée, mille fois restauré, où d'ailleurs d'autres membres de sa famille sont enterrés. Il n'est pas le seul d'être enterré là. Et de façon intéressante, c'est un monument qui est bâti par le Tamerlan lui-même, avant sa mort, recommencé.
Avec la mention « Ne dérangez pas mon cadavre ».
Oui, mais le monument était bâti pour un de ses petits-fils qui est décédé avant lui. D'ailleurs, un fils, fils d'abord et petit-fils ensuite préféré.
Et donc, pour avancer, donc les soviétiques, eux, s'en fichent de la superstition.
Donc,
l'archéologue Gerasimov...
Effectivement, Mikhail Gerasimov, c'est un anthropologue qui travaille avec une équipe d'archéologues soviétiques.
Ils déplacent le sarcophage.
En fait, c'est un cénotaphe. Tamerlan est enterré à l'étage
inférieur.
Et donc, on bouge la dalle, on ouvre pour vérifier si effectivement le tombeau contient un cadavre déjà, parce qu'on a beaucoup de mausolées où les tombeaux en fait sont vides.
Là, il y a un cadavre, il l'amène à Moscou, il la porte à Moscou.
Voilà, et on voit dans un premier temps que effectivement il s'agit de quelqu'un qui présente d'importantes calcifications au genou, etc. Donc, on pense, voilà, Tamerlan. Et le travail de cette équipe s'effectue entre les 19 et les 20 juin 1941.
Et donc, ça serait la fameuse malédiction.
L'histoire dit que le lendemain même de l'ouverture du tombeau,
c'est l'opération Barbarossa.
Hitler envahit l'Union soviétique. Donc, la malédiction de Tamerlan se réalise, en tout cas la population locale y croit véritablement jusqu'à aujourd'hui.
Le pouvoir des empereurs des steppes demeure, même immatériel, ce qui nous amène à écouter notre dernier extrait. D'écouter l'hommage à Genghis Khan, un chant traditionnel mongol, pour clore cette émission. Merci à vous Alexandre Papas, merci Maria Choupet, merci Simon Berger. C'était Les Empereurs des Steppes, le cinquième épisode de notre série Les Envahisseurs, une émission d'Alfred de Montesquieu préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique aujourd'hui Éric Boisset. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli de Radio France.